Chapitre 28.
Une démonstration,
éructa le grand maître avec mépris. Il se cala dans ses fourrures et serra dans sa main frêle le gourdin de fer qui lui tenait lieu de canne. Et de l'or, votre Altesse vénérable.
Ainsi que de l'or,
acquiesça le grand maître d'un ton négligent. Poniette se posa le coffret à terre et l'ouvrit avec une nonchalance qu'il avait grand mal à feindre. Il se sentait seul au sein d'un monde hostile. Il avait ressenti la même impression au milieu de l'espace la première année. Le demi-cercle de conseillers barbus qui assistaient à la scène regardaient le marchand sans aménité. Parmi eux se trouvait Furl, le favori du grand maître, et son visage anguleux était particulièrement sévère. Poniette se l'avait déjà rencontré, et ce jour-là, il avait compris qu'il se trouvait en présence de son pire ennemi. Il avait donc décidé d'en faire sa première victime. Derrière les portes de la salle, une petite armée attendait la suite des événements. Poniette s'était bel et bien coupé de son vaisseau. La corruption était désormais sa seule arme, et Gorof était toujours leur otage. Il procéda aux ultimes réglages du monstre encombrant qui lui avait coûté une semaine d'efforts et, une fois de plus, récita une prière silencieuse pour que le quartz doublé de plomb tienne.
« Qu'est-ce que c'est que cela ?»
demanda le grand maître. Poniette recula d'un pas et répondit
« C'est un petit appareil que j'ai construit moi-même. Je le vois bien, mais ce n'est pas cela qui m'intéresse. Est-ce que c'est une de ces abominables sorcelleries de votre monde ?»«
Il est certes de nature atomique, » reconnut Poniette gravement. « Mais aucun de vous n'aura à le toucher ni même à s'en préoccuper. Il est destiné à mon seul usage et je prends sur moi d'assumer toutes les abominations qui pourraient en surgir. »
Le grand maître avait brandi sa canne de fer dans la direction de la machine, et ses lèvres murmurèrent une invocation purificatrice inaudible. Le conseiller, au visage émacié qui était assis à sa droite, se pencha, approchant sa moustache rousse en désordre de l'oreille du maître. Celui-ci se dégagea d'un geste impatient.
« Et quel rapport y a-t-il entre cet engin diabolique et l'or qui sauvera peut-être la vie de votre compatriote ?»
Avec cette machine, commença Poniette en posant doucement les mains sur les flancs rebondis de la cavité centrale dont il se mit à caresser le métal. Je peux transformer le fer, que vous dédaignez, en or de la plus fine qualité.
C'est le seul appareil connu de l'homme qui soit capable de transmuter le fer, ce métal vulgaire dont on a recouvert votre trône et les parois de cette salle, votre Altesse Vénérable, en or sonnant et trébuchant. Poniette se disait qu'il sabotait le travail. D'habitude, le boniment qu'il servait à ses clients était plus coulant, plus plausible. Cette fois, ses arguments lui semblaient s'élancer vers leur cible avec toute la grâce d'un convoi de cargos spatiaux à pleine charge. Mais c'était le contenu, et non la forme, qui intéressait le grand maître.
Alors, c'est de cela qu'il s'agit, la transmutation. Des imbéciles s'en sont déclarés capables. Ils ont payé cher leur sacrilège.
Avait-il réussi ?
Non.
Le grand maître parut goûter la plaisanterie.
Réussir à produire de l'or eût été s'absoudre du crime tout en le commettant. C'est l'essai suivi d'un échec qui est fatal. Tenez. « Que pouvez-vous faire de ma canne ?»
Il en frappa le sol. « Mille pardons, votre Altesse Vénérable, mais mon appareil est un petit modèle et votre canne est trop longue. » Le grand maître darda ses petits yeux brillants alentour.
« Randelle, vos fermoirs. Allons, ne vous faites pas prier, on vous les remplacera doublement s'il le faut. »
On se passa les fermoirs de main en main. Le grand maître les soupesa d'un air pensif.
« Tenez !»
dit-il en les lançant à terre devant Poniette. Poniette les ramassa. Il lui fallut forcer pour rouvrir le cylindre,
Puis, clignant des yeux tant il se concentrait, il posa, avec le plus grand soin, les fermoirs au centre du plateau qui constituait l'anode de l'appareil. Plus tard, ce serait plus facile, mais il ne fallait surtout pas qu'il y eût d'erreur la première fois. Pendant 10 minutes, le transmutateur artisanal émit des grésillements de mauvais augure, tandis qu'une odeur d'ozone ténue mais nettement perceptible envahissait la pièce. Les Asconiens reculèrent en marmonnant, et une fois de plus, Furl s'empressa de souffler quelque chose à l'oreille de son maître. Celui-ci, rigoureusement immobile, demeura impassible. Les fermoirs, quand ils réapparurent, étaient en or. Poniette se l'étendit au grand maître en murmurant « Votre Altesse Vénérable !» Mais le vieil homme hésita, puis les repoussa d'un geste. Son regard s'attardait sur le transmutateur. « Messieurs, se hâta de dire Poniette, ceci est de l'or, du plus pur qui soit, et de l'or massif. Vous pouvez soumettre ces fermoirs à toutes les épreuves physiques ou chimiques connues qu'il vous semblera bon d'essayer pour vous en assurer. Il est impossible de distinguer cet or de celui extrait des mines. Et n'importe quel fer peut être traité de la même façon. La rouille ne l'altérera pas, pas plus qu'un alliage modéré. » Mais Poniette ne parlait que pour meubler le silence. En fait, les fermoirs qu'il tendait à ces gens étaient bien assez éloquents. L'or parlait pour lui. Le grand maître finit par tendre lentement la main en direction des objets. Furl s'écria aussitôt. « Votre Altesse Vénérable, cet or provient d'une source impure !» Mais Poniette se riposta. « Du fumier peut naître une rose, Votre Altesse Vénérable. Il vous arrive d'acheter à vos voisins les marchandises les plus diverses sans jamais vous enquérir de la façon dont ils se les procurent. S'ils les fabriquent avec des machines orthodoxes bénites par vos ancêtres ou si quelque engeance d'outre-espace les leur a apportées. D'ailleurs, je ne vous offre pas l'appareil, mais l'or. « Votre Altesse Vénérable, » dit Furl, « vous n'êtes pas responsable des péchés d'étrangers qui travaillent sans votre consentement et même à votre insu. Mais accepter cet étrange pseudo-or fabriqué dans des conditions impies, à partir de fer, sous vos yeux et avec votre consentement, constituerait un affront aux vivants esprits de nos ancêtres vénérés. Pourtant, de l'or, c'est de l'or, dit le grand maître d'un ton indécis. Et en l'occurrence, il ne s'agit que de l'échanger contre un païen, un félon condamné. Furl, vous avez trop d'esprit critique. Mais il n'en retira pas moins sa main. Poniette dit alors, « Vous êtes la sagesse même, Votre Altesse Vénérable. Abandonner un païen, c'est ne rien laisser perdre qui puisse profiter à vos ancêtres, alors qu'avec l'or que vous obtiendrez en échange, vous pourrez décorer leurs autels. Et même s'il était possible que l'or en lui-même fût maudit, il ne pourrait manquer d'être purifié si l'on en faisait un aussi pieux usage.
« Par les os de mon grand-père !»
s'exclama le grand maître avec une surprenante véhémence, et il éclata d'un rire grêle.
« Que dites-vous de ce jeune homme, Furl ? Son raisonnement est juste, aussi juste que les paroles de mes ancêtres. »«
Peut-être, » répliqua Furl d'un ton sombre. « Encore faudrait-il qu'on nous assure qu'il ne s'agit pas là d'une machination de l'esprit malin. »
« Je vais faire mieux, » dit Poniette soudain.
« Gardez l'or en otage. Placez-le sur les autels de vos ancêtres comme une offrande et retenez-moi ici pendant 30 jours. Si à la fin de cette période vos ancêtres ne manifestent pas de déplaisir, si aucun désastre ne se produit, ce sera à l'évidence une preuve que l'offrande a été acceptée. Vous en convenez. Que puis-je proposer de plus ?
Lorsque le grand maître se leva et fit du regard le tour des conseillers, pas un ne manqua de lui signifier son accord.
Furl lui-même acquiesça brièvement en mordillant la pointe de sa moustache usée. Ponietz sourit et médita sur l'utilité d'une formation religieuse.